Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, bienvenue sur Divergence, à l'écoute de notre émission Nous n'avons qu'une terre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous recevons Marine Calmé, celle qui a choisi d'inspirer une nouvelle génération de gardiens et gardiennes de la nature en quête de sens et de solutions. Bonjour Marine.
Bonjour.
Alors vous êtes avocate et vous avez mis tout votre temps et votre énergie au service de l'association que vous avez créée, Wild Legal. On sait aujourd'hui que beaucoup veulent trouver du sens dans leur travail et que ça, c'est pas toujours possible. Alors vous vous êtes passée par le droit et le droit était-il une voie royale pour une jeune militante? Et avant d'entrer dans le détail de votre action, racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivée là.
Alors, tout d'abord, la voie royale pour une militante, pour moi, c'est celle qui nous correspond le plus. Et par définition, le droit pour une juriste, effectivement, c'était la voie logique, en tout cas, à suivre après ces 8 années de droit. Moi, j'ai fait du droit comparé. Donc, c'est une branche du droit qui étudie en fait les différences entre différents droits dans différents pays, etc. Et ça m'a toujours beaucoup intéressée parce que je trouvais extrêmement intéressant de pouvoir regarder à l'étranger, ailleurs, dans d'autres cultures, d'autres civilisations, des solutions qui avaient été formulées pour résoudre les problèmes humains. Et donc, je m'étais dit que peut-être, justement, grâce au droit comparé, on pourrait trouver des solutions juridiques pour lutter contre la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité. Donc, c'est à travers cet outil juridique que j'ai voulu m'investir en tant que militante. Pendant mes études de droit, j'ai commencé à faire mes premiers recours en justice. Et c'est de cette manière-là que je m'étais dit, avec le droit, les choses sont assez claires. Il y a d'un côté ceux qui respectent la loi, les gentils, de l'autre ceux qui dérogent à la loi ou la violent, sachant pertinemment ce qu'ils font. Et puis ça, c'est les méchants. Et en fait, cette dichotomie, ce blanc ou noir, en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Je me suis très rapidement rendu compte que malheureusement, il y avait de très nombreuses causes justes qui étaient aujourd'hui parfaitement illégales parce que le droit... c'est une fiction créée par des humains pour des humains et que malheureusement, il se trouve que certains intérêts privés ont l'oreille du législateur et on finit par légaliser des activités qui, au regard des intérêts collectifs, humains et non humains, sont une aberration totale. Bah,
donne-nous un exemple.
Un exemple, oui, il y en aurait énormément. Et donc, mais notamment en ce qui me concerne, le code minier est vraiment... un beau symbole à quel point le droit a servi une cause qui n'était pas celui de la paix et de la protection de l'environnement. Le code minier, il remonte à Napoléon. Il a été le fruit d'une volonté politique, celle de extraire de la terre les ressources nécessaires pour les activités militaires à l'époque, donc pour faire la guerre. Et donc, il fallait pouvoir extraire vite. Les contraintes écologiques, évidemment, n'étaient pas vraiment une question à l'ordre du jour à l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'on a hérité aujourd'hui d'un code minier qui déroule le tapis rouge aux entreprises, aux multinationales extractives qui détruisent la nature. Et donc, c'est pour moi un code vraiment emblématique de ce problème d'une législation qui est aveugle aux limites planétaires et sourde aussi aux objectifs de paix sociale et aux besoins de trouver une forme d'harmonie avec le vivant et au sein des vivants.
Alors, dans un premier temps, vous avez essayé quand même d'utiliser votre savoir et puis de défendre un certain nombre de causes. Je suppose que ça s'est fait en étapes.
Oui, j'y ai pas renoncé pour autant, parce que je trouve qu'il y a aussi énormément de lois qui sont plutôt pas trop mal faites et beaucoup d'industriels qui se trouvent dans l'illégalité la plus totale. Donc il y a des fois où ça marche aussi, hein. Faudrait pas faire un tableau trop négatif, mais c'est vrai que de manière assez générale, je constate que le droit est inefficace pour résoudre des problèmes structurels et obtenir des victoires qui soient vraiment des victoires qui nous permettent de tourner la page, vous voyez, de créer une jurisprudence qui ferait que véritablement on entre dans une nouvelle ère. Le post-anthropocène et donc c'est normal puisque hein, c'est pas le juge hein, qui doit définir la politique d'un État mais bien le gouvernement et le législateur et donc du coup c'est pour ça que je me suis vraiment plongée dans l'idée de créer un droit nouveau et de proposer des normes qui nous permettent justement de restructurer cet État, cette nation, cette gouvernance qui nous réunit autour de l'idée justement du respect des limites planétaires et des communs.
Alors, tout en poursuivant donc votre travail de juriste, vous avez décidé de créer les Gardiens pour la Nature, ce qui est en fait une association. Et le déclic vous en est venu lors d'un de vos voyages en Guyane, je crois.
Alors, non, c'est pas tout à fait ça. Donc devenir gardien de la nature, c'est le nom de mon livre, qui est le récit, effectivement, de ce que j'ai vécu en Guyane, qui est un livre qui est vraiment dédié à une sorte d'initiation, justement, parce que chaque chapitre, j'ai voulu y intégrer une sorte de déclic pour prendre conscience de l'état aujourd'hui des choses et amener le lecteur et l'électrice à avoir une analyse critique sur un sujet qui n'est pas forcément facile, celui du droit, mais de le comprendre à travers une aventure qui est la mienne, pour que justement... on puisse engager une réflexion autour de qu'est-ce que c'est être gardien de la nature, qu'est-ce que c'est défendre le vivant, comment on s'engage de manière à représenter plus que nous-mêmes, à représenter les autres non-humains qui peuplent cette planète avec nous, et comment donner un sens du coup à son engagement, à son activisme au quotidien et en se reliant aux autres.
Alors ce petit déclic-là, vous l'avez eu en rencontrant donc les peuples autochtones de Guyane, qui avait un lien très privilégié à la nature, et vous en avez donc tiré des leçons.
Oui, alors effectivement, au moment où justement je me suis un peu rendu compte de ce cul-de-sac dans lequel j'étais arrivée avec le droit actuel et que j'étais assez déçue après avoir perdu pas mal de recours en justice, eh bien, il y avait une délégation de Guyane, du peuple Kalinina qui était venu à Paris pour faire le tour des ministères et alerter sur leur opposition au projet Montagne d'Or, un projet de mine d'or à ciel ouvert. Et en fait, effectivement, ça m'a beaucoup marqué d'entrée de jeu, ce lien totalement différent à la Terre qu'ils entretiennent depuis des générations et qui crée une différence fondamentale finalement entre notre civilisation, entre notre monde, un monde qui est persuadé que la Terre nous appartient à nous humains, et cet autre monde, ce monde autochtone dans lequel on est fier et on est humble parce qu'on appartient à la Terre. Et donc du coup, il y a vraiment cette confrontation des deux mondes qui m'a particulièrement parlé, effectivement, et que j'ai voulu connaître mieux et plus.
Alors, quand vous êtes arrivé en Guyane, vous vous êtes bien sûr rendu compte que ce n'était pas forcément le discours des autochtones venus rencontrer les ministres à Paris, mais qu'au sein même de leur société, tout cela était en débat. Donc, est-ce que vous avez un peu modifié votre approche du peuple autochtone ?
J'ai pas eu de remise en question de ce que j'avais ressenti en les rencontrant. Par contre, j'ai travaillé effectivement pendant 4 mois à vraiment essayer de comprendre mieux leur organisation sociale. Et donc j'ai appris le droit coutumier grâce à un juriste autochtone qui s'appelle Alexis Tiuka et qui m'a transmis du coup son savoir sur justement ces traditions et ces coutumes transmises oralement et les raisons de ces coutumes, et notamment le fait que justement sur la Terre, il y a dans le droit de coutumiers autochtones aucune propriété. Aucune propriété privée.
Alors, comment vous voyez les choses évoluer? On a d'un côté des Amérindiens qui se plaignent, bien sûr, qu'on leur a pris leurs terres, ce qui est tout à fait juste. Vous avez de l'autre côté, aujourd'hui, toute une population qui s'est installée sur les rives marines de la Guyane. Et, par exemple, il y avait ce week-end encore un débat au sein des assemblées de la Guyane française pour reconnaître le droit coutumier. Et, en fait, ce sont les coutumiers qui ont refusé d'entrer dans les... Je le dis un peu rapidement, bien sûr, sans entrer dans les détails, mais on a de toute façon toujours un refus des peuples coutumiers d'entrer dans les instances dirigeantes de la Guyane. Donc, on est un peu dans un cercle vicieux. Comment est-ce qu'on peut en sortir?
Alors, tout d'abord, les autorités coutumières, elles n'ont pas refusé de rentrer dans les cercles de gouvernance, puisque ça ne leur a pas été offert, en fait. C'est-à-dire que cela n'a pas été proposé. Ils ont émis des réserves sur le statut autonome de la Guyane, qui est en cours de discussion et qui soulève de nombreuses questions. Ils ont émis des réserves parce qu'en fait, le Sénat coutumier qu'on leur propose n'a qu'un rôle consultatif, n'a pas de pouvoir d'autodétermination sur les terres et finalement n'aurait aucun pouvoir du tout, si ce n'est celui de regarder les autres faire de la politique à leur place. Et donc, on peut tout à fait comprendre pourquoi, en fait, ils ne refusent pas d'y siéger. On ne leur en offre pas la possibilité. On ne leur offre pas la place qui est non seulement leur place légitime, mais aussi la place qui devrait leur être reconnue du fait des accords internationaux qui reconnaissent le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Et tant que la France et les institutions guyanaises maintiendront un statut dans lequel ils privent ces peuples et les invisibilisent dans leur autonomie politique, forcément, on n'aboutira pas à une paix sociale et des accords sur le long terme concernant le développement de ce territoire.
Et alors, comment vous expliquez que, alors que les accords de Guyane leur avaient accordé 40 000 hectares, leur avaient retrocédé 40 000 hectares, ils ne les aient pas accepté, enfin, ou en tout cas, il n'est pas. On n'a que trois villages qui, aujourd'hui, effectivement, se sont appropriés cette mesure.
Alors, c'est 400 000 hectares. C'est
40 000,
400 000 hectares de terre qui doivent être donc restitués aux peuples autochtones en dédommagement de la colonisation française suite aux accords de 2017 et au blocage qui s'était et aux mobilisations qui avaient eu lieu en Guyane.
Oui, on y était, j'y étais tout à fait. Effectivement, on sait la grosse intervention qu'il y a eu au Conseil.
Exactement. Et donc, en fait, comme je vous disais au départ, la restitution n'a pas encore eu lieu tout simplement parce que l'organe chargé de récupérer ces terres n'a pas été constitué. C'est-à-dire qu'en suivant le droit coutumier autochtone, il est nécessaire d'avoir une propriété collective sur ces terres et non une propriété privée distribuée et parcellisée à des propriétaires individuels. Et donc, en fait, à la demande des organisations coutumières, il était nécessaire de créer un office foncier sur lequel j'ai la chance de pouvoir participer et apporter, je l'espère en tout cas, un soutien juridique pour justement leur permettre de conserver une propriété collective sur leur terre et ainsi respecter les principes d'inaliénabilité, d'incessibilité de leur terre traditionnelle,
alors...
comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie.
Très bien. Alors, on va quitter momentanément la Guyane, bien qu'on y reviendra tout à l'heure les problèmes qui se posent aujourd'hui concernant la forêt. Pensez-vous donc qu'on puisse, à l'issue des travaux que vous avez menés, qu'on puisse modifier les rapports de force qui existent entre économie et écologie et que le droit du vivant qu'on a espéré voir reconnaître depuis les années 70 voit un jour... le jour, c'est le cas de le dire. Contrairement à ce qu'on pense parfois, les combats pour le droit du vivant se mènent de longue date. Alors pourquoi n'ont-ils toujours pas abouti, à votre avis?
Mais sur certains territoires, ils ont parfaitement abouti. En France, d'ailleurs, il y a déjà un territoire qui a reconnu les droits de la nature. C'est le territoire des îles Loyauté, en Nouvelle-Calédonie, où depuis 2019, le principe unitaire de vie et la possibilité de reconnaître des droits à la nature ont été inscrits dans le code de l'environnement des îles Loyauté. Et donc, en fait, il s'agit tout simplement, aujourd'hui, je pense, d'un processus qui est effectivement un processus de long terme, mais qui est tout simplement un processus inévitable si l'on veut à la fois garantir l'habitabilité de nos territoires demain, mais aussi garantir la paix sociale pour éviter justement les crises dans lesquelles on voit les premiers prémices, par exemple, comme ce week-end avec les mobilisations sur les bassines ou d'autres conflits qui vont générer effectivement des violences si l'on ne trouve pas en amont une possibilité justement d'intégrer les représentations de la nature et les limites de notre planète et de nos écosystèmes dans notre modèle de gouvernance.
Alors donc, ça vous l'avez trouvé aussi dans d'autres pays, je pense, hein, et ça vous sert peut-être un peu de modèle aussi à cette cause.
Dans énormément de pays, on a presque une quinzaine d'années de recul maintenant, depuis que l'Équateur a, en 2008, intégré les droits de la nature dans sa constitution. Ce mouvement, il a traversé l'Atlantique, d'Ouganda, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et maintenant en Europe, puisque nos voisins espagnols ont été les premiers en Europe à véritablement reconnaître des droits propres à un écosystème. C'était le cas de la lagune de la Mare Menor en septembre 2022, septembre de l'année dernière, qui a été reconnue par le biais d'une loi espagnole comme sujet de droit. Et qui sort donc désormais de son statut d'objet de conservation pour vraiment intégrer des droits fondamentaux propres à cet écosystème et un organe de tutelle composé notamment de gardiens pour le représenter et le défendre devant les administrations et les juridictions. Et donc ce terme de gardien de la nature, il est extrêmement important pour moi parce qu'il est aussi très imprégné de ce mouvement mondial pour la défense des droits du vivant.
Alors, donc, on voit qu'un certain nombre de pays maintenant ont avancé et sont en pointe sur ce terrain. Il y a un des domaines sur lesquels il y a encore sans doute beaucoup à faire, c'est reconnaître ce qu'on appelle l'écocide. Alors, je sais aussi que ça fait partie des combats que vous menez.
Oui, tout à fait. Alors, donc, le travail avance. En France, malheureusement, les travaux qu'on avait menés avec Wild Legal et puis la Convention citoyenne pour le climat ont été assez déceptifs puisque le gouvernement n'a pas repris notre proposition. Et on a fait une version, on pourrait appeler ça édulcorée ou greenwashée serait peut-être un terme plus approprié. En revanche, au niveau international, on sait que l'énergie que nous y avons mis a été contagieuse puisqu'en Belgique, nos voisins ont sauté le pas et ont intégré les droits de la nature dans une loi, les droits de la nature, l'écocide, pardon. Et puis les choses sont en train de bouger aussi énormément au niveau européen, puisque le Parlement européen, la semaine dernière, s'est prononcé en faveur de la reconnaissance du crime d'écocide dans sa directive sur la criminalité environnementale. Et Wild Legal participe par ailleurs, je siégerai en tant qu'observatrice dans les travaux du Conseil de l'Europe en prévision d'une nouvelle convention pour la lutte contre la criminalité environnementale qui, je l'espère, intégrera également ce crime d'écocide afin de toucher des États hors de l'Union européenne également. Donc on est vraiment dans une dynamique à la fois à l'échelle locale et mondiale aujourd'hui pour l'écocide.
On rappelle quand même ce qu'est l'écocide parce qu'on a oublié de le faire.
L'écocide, donc, ce sont les crimes les plus graves commis contre la nature et qui concernent les destructions graves, étendues et durables à grande échelle. Donc d'une
irréversible, je suppose.
Irréversible, c'est aussi un critère qui va avec le terme de durable, selon comment on l'interprète. Et donc ce sont des crimes qui, en fait, sur le long terme, déstabilisent ou dommagent des écosystèmes entiers et donc portent atteinte à leur habitabilité, à la fois pour les êtres humains, évidemment, mais également pour les non-humains qui peuplent ces écosystèmes aussi.
Alors, on va revenir deux minutes sur la Guyane parce qu'il y a un dossier très chaud actuellement. Vous avez évoqué les problèmes de l'orpaillage, on continue à en parler beaucoup. Vous avez évoqué les problèmes du foncier. Vous avez soulevé il y a peu de temps avec d'autres associations guyanaises, pardon, le problème de la biomasse. Alors, on est en fait pour servir l'environnement, puisque c'est à des fins d'énergie alternative, on déforeste ou on utilise le verre, on va dire, entre guillemets, pour alimenter l'énergie. Et notamment a été très largement mis en question le centre spatial de Kourou.
Alors oui, en Guyane, c'est un projet effectivement très complexe qui nous anime parce que il faut le savoir, en ce moment en cours des discussions au niveau européen sur la directive des énergies renouvelables. C'est une directive qui définit les critères pour dire ce qui est renouvelable ou non. Et malheureusement, le gouvernement français et les élus de Guyane, évidemment à la demande d'entreprises dédiées au secteur de la biomasse, se sont mis en tête d'alléger les conditions pour l'obtention de ce statut d'énergie renouvelable en Guyane et pour faire passer en fait des énergies qui n'ont rien de durable ni de renouvelable des critères particuliers pour pouvoir exploiter les forêts guyanaises, la forêt amazonienne et la remplacer par de la monoculture intensive, ce qu'on appelle à vocation énergétique, donc ce sont des plantations de canne ou des plantations de soja ou d'autres oléagineux pour produire des agrocarburants ou de la biomasse qui pourra être ensuite brûlée dans ces centrales.
Alors, sans doute qu'on aura l'occasion d'en reparler assez longuement, je crois, notamment quand on abordera un des projets IGUAN, puisque c'est comme cela que le CNES l'appelle. Alors, vous allez venir à Montpellier pour évoquer tous ces sujets dans un tiers-lieu qui s'appelle The Island. Quel message allez-vous délivrer et pourquoi vous venez à Montpellier pour parler, pour un peu évoquer votre croisade?
Déjà, j'y viens parce que je suis vraiment ravie de revoir mon ami David et en plus parce que je pense que c'est dans ces tiers-lieux qu'on peut aborder au plus près des gens, des questions qui sont vraiment de l'ordre des communs et des sujets dont on a besoin de parler pour répondre notamment aux questions, aux interpellations sur la protection de la biodiversité, du climat et d'apporter des solutions un peu innovantes justement comme par le biais des droits de la nature pour redonner un peu d'espoir aussi sur le fait que les choses sont en train de bouger ailleurs, les associations agissent en France et que donc il appartient à chacun d'entre nous de s'engager.
Alors, David est avec nous. Bonjour David.
Bonjour.
Alors vous êtes le fondateur de The Island. D'abord, quelques mots sur ce tiers-lieu, comme il en existe maintenant beaucoup en France, mais c'est quelque chose qui a finalement été assez vite, parce que c'était presque inconnu il y a quelques années.
Oui, tout à fait, ça allait très vite. Nous, on a monté le lieu en 2015, et quand on a monté le lieu, il y avait 200 tiers-lieux en France. Aujourd'hui, on en a 5 000, 10 000, je ne sais pas combien. Tous les territoires ont leur tiers-lieu. Certainement, la petite spécificité de The Island, c'est que c'est un tiers-lieu qui est vraiment dédié aux questions de transition et d'économie régénérative. Donc, on travaille vraiment sur les enjeux du monde et les enjeux du vivant.
Alors, pourtant, quand on vient à The Island, comme le nom l'indique, on est dans un espèce de cocon. Enfin, on passe une porte, on passe un hangar et puis on arrive dans une cour absolument luxuriante dans laquelle on trouve des bananiers, enfin... On est dans un lieu, finalement, hors du monde. Et c'est là que vous venez discuter du monde. C'est un peu paradoxal.
À mon sens, ce n'est pas paradoxal. On parle des enjeux du vivant. Donc, ce qui serait paradoxal, c'est de parler de ces enjeux-là sous des néons. Il me semble que ça a beaucoup plus de sens aujourd'hui de parler des enjeux du vivant dans les pieds dans la terre, sous des bananiers éventuellement et dans un lieu qui est très luxuriant.
Alors, dans ce lieu, vous voulez quand même qu'on parle des réalités?
Tout à fait, tout à fait. On aborde, c'est pas du tout un endroit où on est dans le déni, bien au contraire, c'est un endroit où on aborde toutes les problématiques du monde, les grands défis, les grands enjeux, notamment Marine aussi qui vient pour témoigner, pour partager ses savoirs et ses connaissances sur ces sujets-là. Donc l'idée est aussi de pouvoir les partager avec les Montpelliérains.
Alors c'est un lieu aussi où on travaille finalement ?
C'est un lieu où on travaille, on a des entrepreneurs sociaux donc, qui sont engagés pour le monde, on a des associations qui sont là et beaucoup d'indépendants qui sont également ici pour réinventer le monde et proposer des nouvelles solutions.
Alors, David, on aura l'occasion d'échanger plus longuement avec vous en juin prochain, puisque vous nous parlerez d'un ambitieux projet que vous avez pour Montpellier. On n'en dit pas plus. Alors, au revoir, Marine. Merci d'avoir été avec nous. On espérait que vous alliez pousser la porte de Divergence. Un certain nombre de problèmes sociaux nous en a empêchés, mais on aura l'occasion de se revoir, j'en suis sûre. Alors, au revoir à vous.
Au revoir.
Et puis au revoir à David et à bientôt.
Au revoir, à bientôt. Merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.